Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui posent chacun à sa façon la question de l'universel. Dans « Faut-il se ressembler pour s'assembler ?», publié aux éditions du Seuil, Nicole Lapierre interroge ce dicton « qui se ressemble s'assemble » pour en discuter le sens commun. À la croisée de l'anthropologie et de la politique, la chercheuse déconstruit ce qu'elle appelle les nouveaux replis sur fond d'injustice et met en avant une approche comparatiste qui refuserait de hiérarchiser. On trouve en creux dans cet ouvrage une participation au débat très vif qui se joue actuellement autour de la critique de la modernité occidentale et de son caractère supposé aliénant et excluant. C'est justement contre cette idée que Stéphanie Rosa a écrit « La gauche contre les Lumières » publié chez Fayard. La philosophe s'attaque ici aux critiques portées contre la raison, l'universel et le progrès hérité des penseurs du XVIIIe siècle. Une critique qui n'est pas nouvelle chez les penseurs de gauche mais qui a pris, selon Rosa, une dimension radicale en intégrant les accusations d'impérialisme et de néocolonialisme. Et en studio pour débattre ce soir, Géraldine Mosna-Savoie de France Culture. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir.
Et Jean-Marie Durand, journaliste indépendant. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Raphaël.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Nicole Lapierre, « Faut-il se ressembler pour s'assembler ?» publié aux éditions du Seuil. Nicole Lapierre est anthropologue et sociologue. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS. Et ses travaux ont porté successivement sur l'émergence du féminisme, les questions d'identité, de mémoire familiale et de transmission entre générations. Plus récemment, elle s'est penchée sur la figure de l'autre, de l'étranger, de l'exclu, en s'intéressant notamment au combat croisé des Juifs et des Noirs dans l'essai « Cause commune » publié en 2011 chez Stock, pour un éloge de l'empathie qui entendait sortir de la concurrence des mémoires, parfois appelée « concurrence des victimes », et pour montrer une histoire des luttes partagées et de solidarité. Nicole Lapierre met donc en avant les notions d'empathie, mais aussi de réciprocité et d'entraide, qu'elle déploie encore une fois dans l'essai qui nous intéresse ce soir, qui fait une sorte de synthèse de tout ce que je viens de dire. Car se demander « faut-il se rassembler pour s'assembler ?», c'est questionner une fausse évidence véhiculée par la sagesse populaire et favorisée par une allitération efficace, une évidence qui justifie en réalité le repli et le rejet. Dès le début du livre, Lapierre donne sa réponse catégorique. Non, il n'est ni nécessaire ni souhaitable d'être les mêmes pour vivre côte à côte. Car cette recherche de la ressemblance a amené deux types de sociétés, nous explique-t-elle, soit des sociétés radicalement excluantes de toutes les minorités, soit des sociétés autoritairement incluantes qui prônent l'assimilation. Pour en faire la démonstration et proposer une troisième voie, Nicole Lapierre mobilise donc l'anthropologie et la politique. Elle interroge l'évolution de la famille comme lieu de la recherche du semblable, de l'hérédité, puis elle déconstruit le parallèle entre famille et nation avant de consacrer plusieurs chapitres à défendre un comparatisme qui serait apte à constater les différences sans les hiérarchiser. Jean-Marie Durand, finalement, Nicole Lapierre arrive à la fin de cet essai par inverser la proposition. Ce n'est plus qui se ressemble s'assemble, mais qui s'assemble finit peut-être par se ressembler.
Ou qui se distingue s'assemble, ou en tout cas qui se ressemble se fuit, j'ai envie de dire. C'est vrai que ce dicton, en effet, de sagesse populaire, comme vous l'avez rappelé, est un peu débile, hein, faut l'avouer. On peut le sentir, enfin, on peut le deviner intuitivement dans nos propres vies. Heureusement qu'on ne s'assemble pas qu'avec des gens qui nous ressemblent. Mais évidemment, elle l'étaye, elle l'interroge de manière plus, disons, sérieuse et philosophique. Elle est, vous l'avez rappelé, anthropologue. Et c'est vrai que d'une manière, ce livre-là, vous l'avez rappelé, est un peu une synthèse de son travail. Parce que c'est vrai qu'elle est obsédée par cette question, justement, de cette tension entre l'universel et le singulier, qui va être un peu le fil rouge de l'émission d'aujourd'hui. Sur cette question précisément difficile aujourd'hui dans la société française d'accepter la cohabitation, la coexistence de cultures différentes. Et elle est évidemment chagrinée. Et en même temps, elle se questionne sur notre incapacité collective à accepter précisément ces différences. Alors, vous l'avez dit, c'est très important. Elle explique très très bien, je pense que c'est la thèse un peu forte de son livre, c'est de nous rappeler en effet qu'il y a deux types de sociétés, en effet, sur la question de la ressemblance qui se font face et qui, d'une certaine manière, s'opposent et se rassemblent d'une certaine manière. Celle, en effet, qui exclut évidemment les différents, donc les sociétés totalitaires pour le dire un peu vite, ok, et à l'inverse les sociétés inclusives qui, au nom précisément de l'assimilation, refuseraient précisément à des groupes minoritaires le droit d'afficher leur propre culture pour le dire un peu vite. Et c'est vrai que cette visibilité de différence refusée par l'un et par l'autre modèle est évidemment un enjeu très important et d'une certaine manière notre société française actuelle est vraiment au cœur de cette tension là. On voit bien que c'est le problème. Les assimilés sionistes, on va en reparler beaucoup notamment avec le livre suivant, sont aujourd'hui aujourd'hui plutôt vraiment le dominant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, maintenant, on refuse au nom de l'assimilation, au nom de, voilà, d'une acceptation d'une norme collective, historique, culturelle française, associée souvent, en effet, aux Lumières, on y reviendra tout à l'heure, le droit, l'interdiction, finalement, d'accepter sa propre histoire, sa propre culture. Et Nicolas Pierre, emmené d'une manière très convaincante, défend précisément l'idée qu'une société démocratique, qui est par définition une société qui fait vivre ensemble toutes ces différences, doit réfléchir sur elle-même et sa manière de contrer cette évidence pour ce qu'elle appelle finalement dénoncer ce qu'elle appelle une tyrannie du regard.
C'est-à-dire, on y reviendra,
qui est un peu sa grande idée, et finalement accepter précisément de constater ces évidences. Et donc c'est un humanisme concret, un humanisme relationnel qu'elle définit dans ce livre de manière assez légère. Le livre est assez facile à lire, hein, c'est pas du tout un livre plombant, difficile, c'est un livre rapide à lire et je pense de cette manière très efficace.
Oui, en effet, c'est un livre qui se lit très bien, Géraldine Mossa-Savoie, donc, et qui revient sur cette tension très actuelle, ce débat qu'on ne cesse d'avoir dans cette émission et dans d'autres émissions sur France Culture et ailleurs, sur le regard à porter sur la modernité. Encore récemment, Hartmut Rosa était l'invité des matins de Guillaume Erner et posait cette question de la modernité, de l'héritage des Lumières, et on sera question en effet en deuxième partie, et donc de cette tension entre universel et singulier.
Alors c'est vrai que c'est une des tensions qui sous-tend ce livre de Nicole Lapierre, faut-il se ressembler pour s'assembler, mais j'ai l'impression en fait que ce que vous avez dit Jean-Marie, à savoir cette défense d'un humanisme différencié, c'est un peu ce qui se joue en souterrain, en creux dans ce livre, mais c'est pas vraiment ce qui est défendu de manière visible, explicite, parce que ce que fait plutôt Nicole Lapierre à mon sens, et c'est vraiment une entreprise passionnante, c'est une entreprise de déconstruction de la ressemblance, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la ressemblance, pourquoi en fait on a toujours pensé eu ce présupposé. Alors, ce proverbe est un peu débile, c'est vrai, mais en fait, il dit beaucoup de choses on pense quand même que pour s'assembler, il faut qu'on ait des éléments en commun. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du commun ? Alors, on a souvent eu une réponse un petit peu facile, qui était la ressemblance physique, la ressemblance visible. D'où, en fait, ce grand thème dans son livre, que je trouve mais vraiment particulièrement intéressant, sur le regard. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les minorités visibles, on a voulu les assimiler, ou alors on a remplacé l'assimilation par le mot d'intégration, ou alors on a voulu les rassembler, puis les exclure, et du coup les dérober à notre regard. Il y a le système aussi des ghettos qu'elle démonte. Alors, moi, je trouve ça vraiment intéressant, cette idée de remonter aux origines de ce principe de qu'est-ce qui fait, en fait, notre principe commun, le principe unificateur, ça pourrait être la ressemblance. Et cette ressemblance, elle a été depuis longtemps analysée. Alors, soit étayée avec des arguments naturalistes, c'est par exemple la parenté. Ça, c'est très intéressant. En fait, elle part de ça. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là de quand un enfant naît, tout de suite, on essaye de trouver les traces du père ou de la mère. Et donc, tout de suite, c'est quelque chose qui est réduit à la visibilité d'un être. Puis après, elle prolonge ce fil de la filiation par l'affiliation. Donc, comment, en fait, on choisit après de s'associer avec des gens? Sur quels critères? Alors, que ce soit des critères naturalistes ou contractualiste, elle parle aussi du contrat social de Rousseau, il y a bien quelque chose qui nous réunit. Alors si c'est pas la ressemblance, qu'est-ce que ça peut être? C'est à mon sens peut-être cette idée-là qui manque un petit peu dans ce livre, mais je pense que c'est pas vraiment son objet, je pense qu'en fait elle tend vers ça. Mais là, ce livre-là qui effectivement est très agréable à lire et touche vraiment juste, en plus en rappelant vraiment des points, des éléments de langage qu'on utilise tout le temps sans même se questionner, même par exemple la manif pour tous qui justement au nom de la filiation rejetait des couples et des mariages homosexuels. Et c'est intéressant en fait de se demander en fait qu'est-ce qui fait qu'on pourrait s'unir au-delà de quelque chose de la ressemblance, au-delà de la couleur de peau, au-delà de pratiques communes, qu'elles soient culturelles, religieuses. Et ça manque un petit peu, mais je pense que ça n'est pas l'objet du livre de Nicole Lapierre.
Alors dans ce livre, faut-il se ressembler pour s'assembler, donc de Nicole Lapierre aux éditions du Seuil, on l'a dit, les questions de ressemblance, d'assimilation, du regard porté sur l'autre, mais aussi de construction de ce regard. Alors, on moque toujours un petit peu cette façon de toujours vouloir tout déconstruire, mais il est vrai que Nicole Lapierre commence en parlant de la famille, et sur cette recherche, évidemment, des ressemblances chez l'enfant qui vient de naître, et souvent la ressemblance du père, hein, parce que mater semper certa est, hein, la mère est toujours certaine, contrairement au père qui lui s'interroge toujours sur sa filiation. Elle montre bien que, en fait, il y a une construction même de la ressemblance. Que les enfants finissent par ressembler à leur père, quand bien même les traits ne diraient pas exactement la même chose. Objectivement, ils ne lui ressembleraient pas.
Tout à fait. Non, mais elle fait écho à beaucoup de travaux qui ont été écrits sur cette question-là depuis Wittgenstein, qui avait inventé le concept d'air de famille, et que François Nudelman, le philosophe français, avait lui-même interrogé dans un livre très beau, d'ailleurs, qui s'appelait Les airs de famille, une philosophie des affinités, qui était paru il y a 7-8 ans, je ne sais plus très bien, qui était un livre justement qui interrogeait cette ambivalence de la généalogie racinière, comme il veut dire, quelque chose comme une sorte d'un fétichisme naturaliste qui fait qu'aujourd'hui tout le monde pense qu'on est le fils de son papa parce qu'on lui ressemble, sauf que souvent, malheureusement, c'est pas forcément le papa. Donc, pas, ça peut arriver, je veux dire, en tout cas. Et donc, l'idée de Nicolas Pierre, c'est de rappeler une chose, à mon avis, importante, c'est que sans évidemment nier la force de la généalogie génétique, pour le dire vite, la ressemblance souvent se construit et se déconstruit et s'invente et s'instrumentalise. En gros, c'est ça son idée. C'est qu'en fait, on peut vraiment penser l'idée que la filiation et la parenté ne sont pas forcément en soi des liens naturels, mais évidemment des constructions sociales. Et elle a une phrase assez belle qui, à mon avis, résume assez bien à la fois ce chapitre-là et globalement l'enjeu de son livre, c'est que on ne voit que ce que l'on croit, plutôt que la fameuse phrase que tout le monde connaît de Saint Thomas, qu'on répète comme manière un peu mécanique, que l'on croit ce que l'on voit. Non, c'est évidemment l'inverse. On voit ce que l'on croit. Et donc, c'est tout intéressant justement d'interroger cette question de l'hérédité. Nicolas Pierre distingue deux choses importantes qui sont l'hérédité et l'héritage. Et en effet, l'héritage, c'est un legs qui peut faire l'objet d'une réappropriation, d'un rejet même, ou d'une réinterprétation. Et c'est ça qui est important dans précisément la question des causes communes ou des biens communs, de la manière de vivre ensemble. C'est précisément assumer ces héritages-là et les travailler. L'hérédité étant moins intéressante en soi, voilà. Elle développe un peu cette idée-là, jusqu'à d'ailleurs avoir une idée que je trouve assez intéressante, qu'on peut discuter, mais que je trouve politiquement assez stimulante, de dire qu'en fait, en France notamment, on a une tradition familialiste très très forte, donc qui a été ancrée dans des politiques publiques depuis longtemps. C'est vrai que la famille a toujours été un peu, disons, le fondement de la société. Les historiens l'ont prouvé. Et elle explique que cette spécificité française, notamment familialiste, pourrait être une sorte d'explication possible des crispations actuelles qu'on voit bien dans la société contemporaine sur la question de la filiation. C'est intéressant, je trouve, comme lien qu'elle fait entre l'un et l'autre.
Oui, Géraldine Mosna-Savoie, elle glisse Nicole Lapierre dans cet essai de ce travail sur la famille, où elle interroge en effet des philosophes comme Wittgenstein, elle va chercher du côté de l'anthropologie, la question de la nature, de la culture évidemment, et elle glisse aussi vers la question du modèle familial comme modèle de la nation. C'est le deuxième chapitre et c'est assez intéressant de voir comment elle va bâtir finalement, à partir de cette idée de la famille, aussi une réflexion politique.
Oui, alors c'est une des grandes traditions en philopolitique de construire en fait la politique, ou en tout cas la nation, sur le modèle familial, avec un chef, avec qui justifierait d'ailleurs en son sein des inégalités, des hiérarchies, avec un chef tout puissant et des sujets qui entre eux d'ailleurs ne seraient pas à égalité, comme par exemple le traitement d'un frère ou d'une sœur ne serait pas les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que même à côté de ce modèle familial qui partirait donc de la filiation et qui se transformerait même sous la forme d'un contrat, il y a quand même quelque chose qui résiste de la ressemblance. C'est-à-dire que même quand on abandonne dans une autre mouvance, dans une autre perspective, ce modèle naturaliste, familial, en philopolitique, on retombe quand même encore sur cette idée de ressemblance. Au point qu'on se demande si, comme on construit aussi la ressemblance, on s'unit à ceux qu'on pense nous ressembler, on réitère en fait cette idée de ressemblance au point qu'on se demande si est-ce qu'on peut s'assembler avec des gens qu'on trouve si différents que ça. Il faudrait peut-être aussi interroger ce qui n'est pas fait dans ce livre, mais ça donne à penser ça. C'est qu'est-ce qui fait que psychologiquement, individuellement, on a aussi du mal à aller vers l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aussi promouvoir la diversité, la différence, mais il y a quelque chose de très classique qui se fait, qui est que à force de vivre ensemble, on va se ressembler et on va aussi inversement se rassembler avec des gens qui nous ressemblent.
C'est la sociologie pour le coup.
Oui, il y a quelque chose de complètement. Il y a à la fois quelque chose de psychologique qui fait que la ressemblance est un principe qui nous tient. D'ailleurs, c'est le principe du mimétisme. Mais il y a aussi effectivement la dimension sociologique, et c'est pour ça que je trouve assez frappant en fait, cette notion de ressemblance. Je trouve en fait qu'elle touche vraiment juste. C'est-à-dire qu'elle permet vraiment de penser quelque chose qui n'était pas vraiment questionné jusqu'ici. On questionne beaucoup, par exemple, le conformisme, l'uniformité, le nivellement de la démocratie, mais on ne pense pas en fait que c'est pas forcément la démocratie qui produit ça, comme avait pu le dire Alexis de Tocqueville, mais que c'est plutôt aussi quelque chose qui nous porte d'emblée, qui va créer en fait le groupe. Et je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue philosophique de penser qu'en fait il y a quelque chose de l'ordre de la tendance au mimétisme, à la ressemblance, qui fait qu'on va créer quelque chose de politique, une communauté politique. Reste cette question qu'elle aborde, c'est que on peut en fait donner, avoir d'autres manières de vivre. Elle parle beaucoup, d'ailleurs c'est très intéressant, parce qu'elle convoque pas que des philosophes ou des anthropologues, des sciences humaines, elle convoque aussi beaucoup les arts, les lettres, elle nous parle de Camus, elle nous parle de Faulkner, elle nous parle aussi d'expositions, du modèle noir qui avait eu... voilà. Donc, et c'est très intéressant comme elle montre en fait comment on va, même en visibilisant, est-ce que du coup on reconduit pas aussi cette emprise qu'on a sur le regard et la visibilité.
Alors justement, ça nous emmène, merci Géraldine Mosnasawa pour cette transition qui va nous amener tranquillement vers le deuxième livre, le second livre de ce soir, Jean-Marie Durand. Il y a en effet tout ce chapitre sur assimilation et effacement qui s'interroge. Voilà comment, dans certains contextes, l'assimilation est une revendication d'égalité, quand dans d'autres contextes politiques, historiques, sociaux, elle peut aussi être vécue comme une invisibilisation. Et comment répondre à ça? Alors il y a en effet cette analyse à la fois, par exemple, des textes d'Aimé Césaire et de son parcours intellectuel, justement, sur cette notion d'assimilation, et aussi sur ce travail qui avait été fait au musée d'Orsay de faire émerger une peinture, les modèles noirs de la peinture moderne du 19e
tout
siècle.
Tout à fait. S'il y a deux auteurs qui me semblent un peu comme une sorte de surmoi de Nicolas Pierre, qui sont là très présents dans son livre, c'est Aimé Césaire, en effet, et puis Édouard Glissant, qui est un autre auteur qu'elle cite souvent et qui, pour elle, un peu une sorte de mettre à penser sur la question justement de la relation et de l'assimilation. Alors ce qui est intéressant sur l'assimilation, elle le rappelle, c'est très important de le rappeler historiquement, parce que c'est vrai que c'était une notion politique qui avait toujours été plutôt détestée par la droite pendant longtemps, et qui avait toujours été défendue par le camp de gauche, par le camp progressiste, pour le dire vite, dans la première partie du XXe siècle. Et c'est vrai que elle a commencé à être disqualifiée, cette assimilation, dans les années 70, qui est un moment de basculement, de retournement intéressant, justement, avec le retour d'une conscience, disons, décoloniale, on va en parler plus tard, mais elle cite donc Aimé Césaire, qui est dans sa fameuse lettre à Maurice Thorez, qui date de 56, où il écrit cette chose importante, qui dit « l'heure de nous-mêmes a sonné ». Donc l'idée d'Aimé Césaire, c'était pas du tout d'essayer de s'enfermer dans ce qu'il appelle un particularisme étroit, ou une sorte d'identité un peu fermée, mais il veut pas non plus se perdre dans une sorte d'idéalisme un peu décharné, désincarné, abstrait. Et l'idée, c'est vraiment de défendre une conception de l'universel qui est celle, si je le cite, d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, un approfondissement et une coexistence de tous les particuliers. Et c'est vrai que là, on retrouve Édouard Glissant, qui viendra après, plus tard, défendre, évidemment, qui prolongera cette idée, justement, d'une critique de la tyrannie, du même, et vraiment au nom du paternalisme, et justement, de l'idée d'inventer un nouvel universalisme. Et là, on voit que Nicolas Pierre s'inscrit complètement dans ce courant de pensée très très fort.
Oui, qu'elle inscrit aussi dans sa réflexion sur le regard, la tyrannie du regard qui sépare et hiérarchise, Géraldine Mosnasawa.
Alors ça, moi, le regard, la question de la visibilité, de l'invisibilisation aussi des minorités, c'est très intéressant en fait. Je disais tout à l'heure que la notion de ressemblance avait été très peu interrogée et qu'en fait, dès qu'on l'interroge, on retombe tout de suite, on la réduit tout de suite à quelque chose de l'ordre du matériel, du physique, du regard, de la visibilité. Et c'est intéressant parce qu'on se demande comment on peut se passer en fait de ce regard-là. C'est-à-dire que même dans les derniers chapitres de son livre, quand elle parle de tyrannie du regard, on voit bien aussi que montrer, parler de minorités visibles, c'est aussi prendre le risque de réduire des minorités à des essences supposées. On les essentialise parce que d'ailleurs, elle cite... l'historienne décolonialiste Françoise Vergès, en disant quand elle s'était promenée dans cette exposition sur le modèle noir, elle disait qu'elle avait été très mal à l'aise parce que c'était une manière aussi en fait de figer et de pas interroger l'arrière-plan de représentation politique et du coup de figer dans des représentations très strictes ces modèles noirs. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que dans l'idée de tyrannie du regard, il y a à la fois l'envie de montrer la diversité, mais cette question de comment la montrer sans figer, en fait, dans des essences et hiérarchisées. Et c'est là où Nicole Lapierre fait intervenir, à mon sens, un concept qui est intéressant, c'est celui de comparaison, où elle dit, la comparaison, c'est pas un problème. Le fait de se regarder et de se comparer, ça n'est pas un problème. Le problème est la hiérarchie qui en découle. Alors comment ? Parce que la différence suppose, en fait, de se comparer, suppose, en fait, de mettre en avant des différences. Mais comment faire pour que ces différences-là ne soient pas source d'inégalités ? Et je crois qu'elle elle finit, en fait, son propos là-dessus. Alors, il y a l'idée aussi d'empathie, de réciprocité qui donne le titre, en fait, à sa dernière partie, qui est une conclusion. Mais je trouve, en fait, que cette idée de comparaison est vraiment quelque chose qui nous donne à penser la suite, en disant comment on peut vivre ensemble, en étant différents, en se comparant, en assumant ça, mais en se disant, ça, de là ne va pas découler ni une ressemblance, ni une hiérarchie.
Mais dégager ce qui est commun à nous tous.
Exactement.
Empathie et réciprocité pour un humanisme relationnel, il y a quand même une proposition dans ce livre d'une Nicole Lapierre, « Faut-il se ressembler pour s'assembler ?» aux éditions du Seuil.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourbois.
So much love, on en a besoin, le dernier titre de Nada Surf. Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur l'essai de Stéphanie Rosa, La gauche contre les lumières, avec un point d'interrogation encore une fois, publié chez Fayard dans la collection Raison de Plus. Stéphanie Rosa est philosophe, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de la pensée du XVIIIe siècle, dont elle interroge les héritages dans le monde contemporain. Et c'est un sujet qui est plus polémique qu'il n'en a l'air de prime abord, car se déroule en ce moment une véritable bataille à l'université, dans les milieux associatifs ou encore entre militants politiques de gauche sur cette question de l'héritage des Lumières. L'essai de Stéphanie Rosa, bien que théorique comme nous allons le voir, s'inscrit ainsi dans une perspective militante que l'on pourrait résumer par une nouvelle question. Comment construire une proposition réellement de gauche, c'est-à-dire porteuse de progrès dans l'émancipation humaine, quand on rejette en bloc le rationalisme, le progressisme et l'universalisme ? En cause, l'entreprise de déconstruction menée depuis plusieurs décennies, qui viserait moins, selon la philosophe, à réaliser la promesse des Lumières qu'à les détruire. Elle rappelle donc les différents moments intellectuels de ce processus et la partie théorique, mais toujours en gardant en ligne de mire les propositions militantes, passant ainsi de Nietzsche à la ZAD, d'Heidegger au Comité Invisible ou encore de Foucault aux indigènes de la République. Par ailleurs, les études subalternes, la pensée décoloniale ou le féminisme intersectionnel sont passées au tamis de la critique. Le résultat est sans appel, la politique identitaire adoptée pour lutter contre les phénomènes de domination bien réels selon elle, ont occulté l'oppression de classe et constitue une impasse intellectuelle et politique. Géraldine Mosna-Sava, où situer, selon vous, ce livre de Stéphanie Rosa dans ce débat important sur l'héritage des Lumières ?
C'est un ouvrage justement problématique parce qu'on a du mal à le situer, ou alors on le situe peut-être un petit peu trop bien. Alors je vais commencer par les points positifs parce que j'ai des points négatifs à dérouler. Donc déjà, en fait, ce que j'apprécie avec ce texte de Stéphanie Rosa, c'est qu'en fait, c'est un livre qui est militant, qui est polémique et qui met les pieds dans le plat. Donc elle s'attaque à tout un ensemble de discours auxquels on s'est habitué, qu'on a peut-être même intériorisé, de critiques de ce qui constitue l'héritage des Lumières, à savoir l'universalité, le progrès et la rationalité. Donc on a tendance quand même à avoir fait sienne ces critiques-là de la raison instrumentale et abstraite qui ne prend pas en compte la chair des individus, l'universel, l'universalité qui serait en fait universalité blanche et masculine et excluante, donc pas du tout englobante, pas du tout universelle. Et puis enfin, le progrès qui, en fait, produirait des inégalités, serait dangereux, conduirait à la perte du monde, hein, un progrès paradoxal. Ça, c'est des critiques très intéressantes qu'on a fait siennes, qu'on connaît, mais qui, et ça c'est très intéressant, qui pour Stéphanie Rosa, en fait, vont être contre-productives. Et mettre les pieds dans le plat, c'est aussi s'attaquer notamment à des courants antiracistes, féministes, décolonialistes, qui se sont appropriés ces critiques-là et qui, de fait, vont rejeter en bloc l'universalité, le progrès, la rationalité, mais au nom de quoi, si on n'a plus ces principes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour penser autrement la gauche? Voilà, en fait, l'enjeu de Stéphanie Rosa. Alors maintenant, je vais passer au point négatif, parce que je trouve que c'est assez courageux d'affronter ce courant-là et de rentrer, en fait, en guerre, parce qu'en fait, ça suscite des guerres. On regarde les réseaux sociaux, c'est vraiment des guerres qui se jouent entre antiracistes et ceux qui seraient supposés racistes, ou en tout cas défendeur de l'universalité. Alors, point négatif, c'est que mais Stéphanie Rosa est spécialiste de ce point-là, j'ai un problème avec l'identification de la gauche et l'héritage des Lumières. J'ai l'impression que si on contredit l'héritage des Lumières, on est forcément contre la gauche, ou en tout cas, on mine la gauche. J'ai un petit peu un problème sur cette identification-là entre gauche et héritage des Lumières. D'autre part, ce qui me pose un problème à partir de là, c'est que je pense quand même que longtemps, plusieurs siècles après les Lumières, on est quand même en droit de s'interroger, de les critiquer, peut-être même de les déconstruire, peut-être même de proposer autre chose, sans être un affreux qui remet en cause le principe d'universalité, de progrès et de rationalité. En fait, j'ai l'impression que il n'y a pas de demi-mesure, que Stéphanie Rosa reconduit un manichéisme entre ceux qui seraient pro-lumière et ceux qui seraient anti-lumière. Et je ne pense pas, en fait, que reconduire un tel manichéisme permette de refonder la gauche. Alors, si la gauche est vraiment le sujet qui turlupine Stéphanie Rosa, si c'est vraiment son cheval de bataille même, je me demande comment ce genre d'écrit peut permettre de reconstruire la gauche, parce qu'en fait, ça ne fait que reconduire des oppositions. Et enfin, on va en reparler, mais sur le vrai problème que j'ai eu, c'est quand même un problème de méthode. C'est-à-dire que le livre est construit en trois parties. Avec l'anti-universalisme peut-il être de gauche, l'anti-rationalisme peut-il être de gauche, etc. L'anti-progressisme peut-il être de gauche. Et à chaque fois sont cités une sorte de mosaïque de références. Alors, intéressant, on découvre que Foucault avait produit une critique des Lumières. Enfin, on découvre, on redécouvre. On se rend compte aussi que l'école de Francfort l'avait fait. Elle passe aussi au tamis la critique de gauche issue de Jean-Claude Michat. Très bien, très intéressant. Le problème, c'est qu'en fait, ça fait deux pages, qu'on a juste des bouts de chaque penseur qui est repris, et que nous, on a juste l'impression qu'elle nous fait un collage de penseurs qui auraient mal pensé. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que ça veut dire que la critique n'est plus possible. Mmh. On peut pas être critique parce que sinon, on est tout de suite contre les Lumières.
Alors, Jean-Marie Durand, vous avez publié récemment, vous, un livre sur les intellectuels français, au moins Intellectus, qui est une enquête justement sur cette galaxie en pleine reconstruction, en pleine modification des intellectuels français. Et justement, cette question de la modernité, de l'universel ou des universels, la rationalité, du progrès, ce sont vraiment des questions au centre de cette recomposition.
Obsessionnel, et on voit une tension très très forte, mais qui est pas très nouvelle. Mais depuis une dizaine d'années, on voit que ça se radicalise, ça se durcit beaucoup. Les positions sont quand même très 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 polarisées aujourd'hui dans le champ intellectuel, mais j'allais dire dans la société en général. On a tous été nous-mêmes témoins de discussions entre amis où on s'énervait sur je ne sais quel ou tel sujet. La question du voile en étant évidemment un paradigme, mais il y en a d'autres. On voit bien qu'il y a une crispation sur ces questions-là que je trouve moi un peu étrange en même temps, parce que j'ai envie de dire, mais on se calme là, c'est on pose le problème de manière un peu tranquille, on réfléchit de manière tranquille. Récemment, il y avait une tribune là qui a fait beaucoup d'encre là, dans Libération, de psy là, 80 psy je crois, qui sont déchaînés là contre la pensée décoloniale, qui selon ces psy auraient tendance à trop mettre l'accent sur le déterminisme culturel et que ça permettrait d'éviter de réfléchir à la psychanalyse psychique. Enfin, c'est absurde. Enfin, à un moment, on peut. Je comprends pas comment des psychanalystes peuvent pas s'intéresser à cette question, à cet enjeu-là. Mais bref, bon, c'est une autre question. Mais on voit bien qu'on est sur une crispation très très forte et elle est évidemment difficile à dénouer. Et je trouve que le livre de Stéphanie Rosa, d'une certaine manière, échoue un peu à clarifier ce problème-là, parce que justement, elle a tendance elle-même à trop crisper justement ce débat-là, à trop polariser à son tour. Il y a deux problèmes pour moi dans le livre qui avaient évidemment des atouts, des qualités. C'est quand même assez pensé, réfléchi. Elle a travaillé, évidemment, c'est sérieux. Mais moi, il y a deux problèmes. D'abord, je trouve que ce qui manque vraiment, c'est l'absence de réflexion sur les lumières elles-mêmes. C'est que elle ne définit pas vraiment les lumières. Et qu'est-ce que ce qu'elle entend par les lumières? Et elle occulte finalement un truc très important qui est la réalité de son inachèvement, qui est le propre des lumières. Il y a un très bon livre qui est sorti il y a peu de temps. Je ne sais pas si on avait parlé ici d'Antoine Nitti,
L'héritage des lumières.
Voilà, l'héritage des lumières qui explique très bien ça. C'est que justement, s'il y a une ambivalence dans l'héritage des lumières, c'est que précisément les lumières sont tout le temps à reproblématiser, à réactiver, parce qu'elles ont été évidemment toujours dans un faux semblant, et que les lumières, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont introduit de manière inaugurale précisément un rapport critique au présent et de la société sur elle-même. Et c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi aujourd'hui les lumières doivent être rendues ce qu'il appelle à l'intelligence collective, à l'imagination critique. Et tout ce que font les théories que Stéphanie Rosa déconstruit et critique très très violemment dans son livre, les théories féministes, les théories décoloniales, les théories
antiracistes,
évidemment s'inscrivent dans ce courant-là. Depuis 40 ans, en effet, on essaye de réfléchir. Et d'ailleurs, la meilleure manière, je pense, d'être un héritier des Lumières, c'est précisément d'essayer de mettre en avant, finalement, ses apories et ses impasses. Et ça, elle le dit pas du tout. Et donc, c'est quand même un problème.
Elle va même plus loin, puisque dès le début, Géraldine Moussa-Savoie, elle fait sienne l'expression « les Lumières n'existent pas ». Donc,
Oui, et puis alors, je reviens sur ce qu'a dit Jean-Marie Durand sur le fait qu'effectivement, elle ne dise à aucun moment vraiment, et donc ça rejoint ce que vous disiez, Raphaël, sur les lumières n'existent pas. En quoi consiste l'universalisme? En quoi consiste le rationalisme? En quoi consiste le progressisme? Je trouve qu'il y a un énorme flou, c'est-à-dire que là où Stéphanie Rosa reconduit en fait une opposition entre anti-lumière et pro-lumière, elle le reconduit en fait à grands traits, à gros traits. Elle reproche en fait aux détracteurs des lumières, aux critiques des lumières, d'être un peu flou et de confondre le progrès social avec le progrès technique, de confondre la raison instrumentale avec la raison pensante. Et finalement, je ne vois pas une différence dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que je n'ai à aucun moment donné une critique fine qui s'appuierait sur des textes sources des Lumières pour dire, voilà, à l'origine, les Lumières sont ça, peut-être qu'on pourrait les réinterpréter. Il y a un problème de dosage, à mon sens, où elle met dans le même panier tout un ensemble de références qui sont quand même pas à mettre sur le même niveau. C'est-à-dire que quand elle dit que des lecteurs de gauche comme Alain Badiou ont été séduits par Heidegger et donc du coup par le nazisme et qu'ils auraient été aveuglés par ça et qu'elle met sur le même plan en même temps Elsa Dorlin qui est une philosophe qui s'intéresse aux questions de race et de genre et que après elle nous met Jean-Claude Michat, mais pour moi en fait ça n'a rien à voir, ça n'est pas du tout, on peut pas en fait convoquer tous ces penseurs là, les mettre dans le même panier en disant ils représentent tous les anti-lumières et on doit tous s'attaquent à eux, ils n'ont pas du tout le même niveau de critique.
Si ce n'est que dans ce livre de Stéphanie Rosa, La gauche contre les lumières, donc publié chez Fayard dans la collection Raison de plus, il y a une volonté de montrer qu'aujourd'hui, il y aurait dans la pensée de gauche une pensée dominante qui aurait écrasé tout le reste et qui n'est peut-être pas une pensée unifiée, mais qui sur les différents domaines qu'on a évoqués, la question postcoloniale, la question du féminisme, la question du progrès, met de côté la question sociale. On voit, il y a un historien comme Gérard Noriel, par exemple, qui dit un peu la même chose, voilà, qui dit la même chose. Aujourd'hui, on néglige trop la question sociale au profit de questions identitaires. Et ça, Stéphanie Rosa le met quand même en avant de manière assez évidente, et c'est là-dessus aussi qu'elle se penche.
C'est vrai, c'est une ligne de clivage très très forte qui, en effet, comme je le disais tout à l'heure, traverse en effet même le champ intellectuel lui-même. Et c'est une évidence entre race, identité, classe sociale. On voit bien qu'il y a des questions, mais c'est des questions, j'allais dire, scientifiques intéressantes, qu'il y ait des débats entre universitaires là-dessus. Moi, ça me semble un peu normal. Mais bon, après, prétendre que toute la gauche aujourd'hui serait perdue dans son délire identitaire, ça me semble absolument faux. Par ailleurs, je reviens à ce que disait Géraldine, c'est vrai que c'est pour moi le deuxième point un peu gênant du livre, c'est la manière qu'elle a de se focaliser sur certaines figures qu'elle estime extrêmement problématiques de ce courant soi-disant anti-lumière. Bon, elle attaque un peu à tout va, mais par exemple, la critique du Michel Foucault, elle est intéressante. Foucault, bon, c'est pas nouveau, il a été critiqué plein de fois, il y a des débats sur Foucault, il y a des héritiers multiples qui sont jamais d'accord entre eux, néolibéral ou pas, enfin, on voit bien qu'il y a
Foucault est-il de gauche, c'est une vieille question.
Voilà, mais
on
dire
sent en plus qu'elle a travaillé sur Foucault, donc on a l'impression qu'on a que des bouts
mais
de ce qu'elle a travaillé.
Dire quand même que le foucaldisme participe du maintien de l'ordre établi, l'effet prédit de son enracinement dans la pensée conservatrice, moi, ça me, j'avoue, je suis pas le méga spécialiste de Foucault, je le reconnais ici quand même, mais j'ai quand même un peu lu, je ne comprends pas. Du coup, ça m'a donné envie de relire un peu Foucault et j'ai lu sa fameuse conférence qui s'appelait Qu'est-ce qu'est lumière, où il revenait sur la fameuse thèse de Kant sur l'Aufklärung, et où en gros, il interroge justement précisément cette tradition-là, et en gros, il invite au contraire à les réactivations permanentes d'une attitude, ce qu'il appelle un ethos politique, et justement, les lumières, c'est ça, c'est s'interroger sur notre présence, sur notre être historique, c'est ce qu'il appelle une ontologie critique de nous-mêmes. Et je peux pas résister de citer la dernière phrase de cette conférence où il dit, Foucault, je ne sais s'il faut dire aujourd'hui que le travail critique implique encore la foi dans les lumières. Il nécessite, je pense, toujours le travail sur nos limites, c'est-à-dire un labeur patient qui donne forme à l'impatience de la liberté. C'est quand même une invitation, au contraire, à élargir les lumières, à les prolonger, à les radicaliser. C'est pas du tout un rejet des lumières, c'est exactement l'inverse.
Alors, Géraldine, moi, ça, ça va.
Et c'est d'ailleurs intéressant, parce que dès le début, elle pose ces questions-là qui, moi, au début, m'ont vraiment intéressée quand elle dit, en fait, jusqu'où on peut critiquer les lumières, les prolonger en les critiquant dans une forme de dialectique, sans en fait les tuer, sans en fait les saper. Et moi, j'ai trouvé que cette tension-là, cette nuance-là ne se retrouvait pas parce qu'elle critiquait d'emblée tous les anti-lumières. Donc, comme je dis, elle reconnaît une forme de manichéisme. Néanmoins, j'aimerais quand même porter votre attention sur deux points que je trouve intéressants dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle montre aussi la manière dont en fait ces critiques des lumières qu'on a un peu intériorisées et tout se retrouvent parfois. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. En fait, le début de son livre, elle parle d'une revue qui s'appelle Constellation, qui était faite par un groupe
livre.
De jeunes.
C'était un
livre collectif, pardon.
Militant.
Je l'avais jamais vu. Ce livre, j'en avais jamais entendu parler. Donc en fait, je l'ai jamais eu entre les mains. Okay. Je sais pas. Mais j'ai beaucoup ri en fait en lisant. Ça a des raisons. Parce qu'elle écrit quand même très bien, Stéphanie Rosa. Ouais. Donc, elle dit que c'est un petit peu ridicule, on doit se passer de l'histoire, on doit se passer de la linéarité, ne compte que les subjectivités. C'est vrai que si on pousse la critique des Lumières dans ses retranchements, on parvient à ce genre, en fait, de posture, imposture, qui ne tiennent pas du tout. Et l'autre point intéressant, je trouve, c'est que là où Stéphanie Rosa a fait un travail intéressant, c'est qu'en démontant en fait toutes ces critiques-là un petit peu mal dégrossies des Lumières, elle met le doigt sur le fait que ces critiques-là sont un petit peu paradoxales. C'est-à-dire que on critique la rationalité en usant de sa propre raison. On critique l'universalisme blanc excluant avec des arguments, en fait, issus de blanc excluant. Je trouve que c'est pas les arguments parfois les plus légitimes.
Percutant, oui.
Mais en même temps, c'est intéressant de démonter, en fait, ces critiques-là. Et j'aurais voulu, en fait, dans ce livre, qu'elle démonte les critiques, vraiment qu'elle prenne au sérieux, Elsa Dorlin, qu'elle prenne au sérieux Jean-Claude Micha, que vraiment ces nouveaux penseurs, en fait, qui irriguent un petit peu les théories actuelles et qui, je trouve, sont passionnantes, qu'elle les critique et qu'elle les challenge, en fait, à partir de textes sources des Lumières, et pas, en fait, qu'elle prenne des bouts un petit peu épars.
Même si, encore une fois, faire de Jean-Claude Michéa ou de Georges Sorel ou de Christopher Lasch, puisque c'est un peu la trilogie dans le passage sur le progrès, des penseurs organiques de la gauche aujourd'hui, c'est au moins discutable. Jean-Marie Durand, il y a une méthodologie dans ce livre qui commence chaque chapitre, que ce soit sur l'universel, la raison ou le progrès, par éclairer un exemple contemporain, et l'exemple de Constellation est assez significatif. C'était donc ce livre en 2014, dont il est vrai que la presse avait pas mal parlé à l'époque, notamment Libération, qui en avait fait des pages et des pages. Un livre collectif, il me semble que c'est Razmig Kocheyan qui était à la manœuvre derrière tout ça, et qui était un livre collectif qui a interrogé les formes nouvelles de mobilisation.
Bah oui,
mobilisation qui était la ZAD, par exemple,
la ZAD,
et qui donnerait Nuit Debout plus tard. Et ce qui est quand même assez significatif de la méthode employée par Stéphane Rosa, c'est d'ensuite en faire. Donc c'est quelque chose d'assez marginal malgré tout dans la gauche notamment et politiquement en règle générale, c'est d'en faire une sorte d'exemple type, d'idéal type de ce qui est devenu la gauche.
Oui, alors que c'est en effet c'est des espaces hyper marginaux, hyper minoritaires, enfin un mauvaise troupe, c'est un collectif de radicaux qu'on a souvent un peu associé, disons, à la tradition du comité invisible qui est aujourd'hui voilà incarne aussi quelque chose d'important politiquement dans une génération qui évidemment ne croit plus précisément au grand soir, à la révolution avec un grand R comme elle est, voilà. Et aujourd'hui, ils essaient d'imaginer d'autres modes de vie, peut-être marginaux dans les interstices de la société. Ça a des échos dans les ZAD, dans tout ça. Et on peut pas non plus mépriser ça. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que le collectif Mauvaise Troupe et ou toute cette génération ultra radicale soit dans un rapport ultra fétichiste, anti-révolution, anti-lumière. Je ne crois pas. Je crois qu'ils essaient d'inventer autre chose. Ils sont dans un rapport ultra critique au présent. C'est une certitude. Mais de même, c'est un autre problème. C'est qu'elle attaque beaucoup aussi, par exemple, le travail de Françoise Vergès, qui est une grande philosophe aujourd'hui de la pensée décoloniale, qui est évidemment ultra radicale. On peut tout à fait discuter sa pensée et pas être d'accord avec elle. Je veux dire, bon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais postuler que ce qu'elle appelle son féminisme de la totalité, c'est comme ça que Françoise Vergès défend un peu sa théorie, puisse être aujourd'hui une sorte de résumé d'une tradition anti-lumière, ça me paraît un peu court aussi. Alors, il se trouve que Stéphanie Rosa a lu quand même, hein, elle évoque un peu toute l'histoire de cette pensée-là, elle évoque le travail hyper important d'Edouard Saïd, notamment, par exemple. Donc, elle voit bien que ça vient pas de nulle part et que c'est évidemment ça une légitimité politique.
Mais il nous manque toute l'assise, justement, voilà, de ces travaux. Il nous manque, on a l'impression qu'on a juste des bouts des travaux de Stéphanie Rosa, qui nous manque, en fait, tout le travail qu'elle a pu produire sur Foucault et les Lumières, sur Edouard Saïd, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'on sent qu'il manque des choses, en fait, dans son démontage.
Il manque des choses. Et il manque surtout l'idée, enfin, à mon avis, importante, c'est que même si on peut la critiquer, encore une fois, il y a des débats, je sais qu'on n'en sort pas, mais qu'aujourd'hui, dire que la pensée décoloniale est rétrograde, c'est absurde. Elle défend quand même l'idée, très important, c'est que les effets de la colonisation ne sont pas terminés. Et des auteurs comme Todd Shepard, Norman Ajari ou Léonore Miano, dont on a pas mal parlé récemment, défendent justement l'idée de la souveraine dignité, quoi, là, c'est le modèle de l'égal liberté de Balibar. Il y a quelque chose d'important de défendre aussi, précisément, voilà, des dominés qui, aujourd'hui, dans la société, ne le sont pas reconnus comme tels.
Même si elle fait émerger des figures un peu connues en France, comme l'anthropologue américain, ouais, oui, Talal Assad.
Oui, c'est un problème.
C'est problématique. Et qui n'est pas présenté comme tel par ceux qui s'en revendiquent toujours. Et donc, c'est vrai que le travail de déconstruction mené par Stéphanie Rosa sur cette pensée est quand même aussi intéressant. Et il part aussi d'une inquiétude qu'on peut bien comprendre venant d'elle ou de n'importe qui. C'est l'inquiétude de se retrouver face à des mouvements qui mettent en avant l'identité et donc l'individu beaucoup plus que le collectif. Et c'est véritablement ça aussi qui interroge Stéphanie Rosa sur la possibilité, voilà, d'un projet de gauche, puisque c'est de là qu'elle parle, d'un projet de gauche quand on s'oppose aux Lumières et donc quand on met en avant l'individu avant le collectif ou avant l'universel.
C'est pour ça que dès le début, moi, j'ai quand même souligné le fait que l'entreprise était vraiment intéressante de Stéphanie Rosa. C'est-à-dire que elle met quand même les pieds dans le plat dans le fait que ces mouvements-là sont particulièrement porteurs, intéressants dans leurs critiques, mais peuvent avoir aussi des effets qui peuvent sembler dangereux. C'est vrai que la crispation sur l'identité est problématique, la crispation du coup sur une identité de couleur, parce qu'à un moment donné, on en vient quand même, dans certains textes, comme elle le rappelle, à distinguer les noirs des blancs, et seul, en fait, prévaut la couleur. Et notamment, elle parle d'une étude sociologique sur... où elle parle en fait de l'émergence du féminisme intersectionnel, qui donc prendrait en compte pas seulement les inégalités de genre, mais aussi des inégalités d'origine, de race, voilà. Et c'est très intéressant parce que elle montre en fait que ces études-là sont intéressantes, mais peuvent être limitées parce que le point de vue est moins social que racial. Du coup, évacue ce côté, cette dimension sociale de l'inégalité ou cette dimension genrée de l'inégalité. Donc moi, effectivement, je trouve ça intéressant qu'elle interroge ce mouvement-là, mais encore faut-il les distinguer. C'est-à-dire que la pensée décoloniale, elle n'est pas unique, elle n'est pas uniforme, elle est encore en construction. Comme le féminisme d'ailleurs, qui connaît quand même plusieurs mouvements. Oui. Donc on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. On peut pas mettre dans le même sac l'école de Francfort avec Jean-Claude Michéa, avec Françoise Vergès. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et la manière dont c'est présenté fait qu'on a l'impression que c'est une pensée uniforme, anti-lumière, homogène. Et or, je ne crois pas que ce soit le cas. Et puis, je pense qu'il faut prendre à la fois très au sérieux ces mouvements-là, à la fois dans leur critique des anti-lumières. Par exemple, moi, je trouve ça très intéressant. Il faut se poser ces questions-là. Comment l'universalisme peut quand même recouvrir découvrir une domination blanche masculine. Des travaux de Geneviève Fraisse là-dessus sont particulièrement intéressants. Comment la raison peut être instrumentale et peut être dangereuse. C'est intéressant, c'est des critiques qu'on a déjà fait, mais il faut prolonger ce travail et pas tout de suite les réduire à une opposition bête et méchante aux Lumières.
Le débat est vif, on a encore du chemin dans la critique de la critique, comme diraient certains. En tout cas, ce livre de Stéphanie Rosaille participe, La gauche contre les Lumières, c'est chez Fayard dans la collection Raison de Plus.
L'instant critique.
L'instant critique, dernière séquence de l'émission où vous partagez l'un ou l'autre vos lectures, des visites de musées, des documentaires. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes venus avec des livres tous les deux aujourd'hui et je reconnais ce livre de loin. Il est assez reconnaissable, il est assez frappant par sa couverture jaune, Géraldine Mostin-Savoie, le Trump d'Alain Badiou.
Ah bah oui, alors faut le dire, c'est un tout petit livre avec un tout petit titre, hein, c'est juste Trump. C'est un petit peu un coup éditorial aussi, il faut le dire, parce qu'en fait c'est trois conférences d'Alain Badiou qu'il a prononcées à trois moments différents de l'élection de Trump. Et donc c'est pas vraiment un essai tout neuf en tant que tel. Mais en le lisant, j'ai vraiment été, je dois dire, assez séduite et passionnée en fait par l'analyse que proposait Alain Badiou. Alors déjà parce qu'en fait on s'attend à retrouver les mêmes analyses un peu psychologiques, ou politicienne sur Trump. Or, en fait, on a vraiment une analyse de philosophie politique sur le système actuel mondial dont Trump, en fait, serait un symptôme. Et puis, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est vraiment aussi cette proposition que formule Alain Badiou, sans être non plus dans la prescription ou dans le programme de futur président, de dire, en fait, comment imaginer une alternative vraiment valable au capitalisme. C'est-à-dire que, par exemple, quand il parle de l'élection de Trump, il dit Hillary Clinton et Trump, en fait, on croyait qu'ils étaient différents et opposés, mais en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes issues du même système et il faudrait pouvoir imaginer quelque chose en dehors du capitalisme, une proposition adverse. Alors pour lui, ça a été le communisme, peut-être à nous d'en envisager d'autres.
Ça l'est encore, hein.
Oui, pour
faut
lui.
Faut pas parler au passé.
Oui, pour lui, ça l'est
encore. Alain Badiou, le communisme.
Oui, oui, pour lui, ça l'est encore, mais il invite aussi à penser un communisme d'une autre manière et il dit qu'il emploie lui-même, en fait, quand même, le passé en disant peut-être pas celui qu'on a connu. Quand même, il faut aussi le.
Oui, ça revient un petit peu sur ses déclarations un peu négationnistes sur le génocide au Cambodge, par exemple. Ça
voilà, exactement.
Peut-être
enfin,
demander ça.
À nous d'envisager autre chose, une autre alternative au capitalisme. Et puis, je trouve que c'est aussi très intéressant de lire, en fait, un texte court. Je pense en fait que les essais de philo-politique peuvent être courts, un petit peu frappants et que parfois on souffre un peu d'essais de philosophie politique trop descriptifs qui en fait vont louer de manière un petit peu abstraite des principes d'égalité, de diversité ou peu importe, mais ne rentrent pas dans le vif du sujet et c'est en ça que j'ai trouvé cette lecture vraiment intéressante.
Et donc Trump
par Alain Badiou dans au PUF, dans Perspective Critique. C'est une collection Perspective Critique.
Jean-Marie Durand.
Moi aussi j'ai des livres courts. En fait, c'est pour évoquer une nouvelle collection.
Hein.
Ouais, parfois ça me dit bien. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Géraldine, parfois les livres courts et incisifs, denses sont hyper importants. Et là c'est précisément l'objet de cette collection qui s'appelle Le mot est faible, qui est une collection qui a lancé les éditions Anna Moza, qui sont des collections sur des mots. Christophe Granger, le directeur de la collection, met dans son intention qu'il trouve que les mots aujourd'hui ont perdu leur sens. On dit n'importe quoi, la révolution est devenue l'étendard de la régression, les révolutionnaires sont devenus des conservateurs, vous voyez, on est bien là-dedans. Et donc, il a sorti plusieurs livres récemment. Les premiers, c'était Révolution par Ludivine Bantini, il y a eu Peuple par Déborah Cahen et École par Laurence Decaux.
On en avait parlé hein, de Peuple.
Voilà. Et là, donc, il y a deux petits livres qui sortent de Démocratie de Samuel Hayat et Histoire de Guillaume Mazot, qui sont très bons livres, très courts, en effet, ça se lit, c'est 90 pages, hein, sur la question, justement, alors, de la démocratie, d'une certaine manière, on vous en parlait toutes les semaines ici, hein, elle traverse toutes nos enjeux réflexifs du moment. Et là, c'est une réflexion sur la démocratie, sur l'idée que, aujourd'hui, défendre une pratique démocratique, c'est à la fois prendre parti, refuser d'être gouverné et lutter contre la domination, qui sont des thématiques dont on a parlé aujourd'hui pendant une heure.
Eh bien, merci. Donc là, c'est le Démocratie, Samuel Hayat. Donc,
Anna Moza,
excellente maison d'édition. Merci beaucoup, Jean-Marie Durand et Géraldine Mostin-Savoie, d'avoir participé à Avis Critique. Avis Critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar et à la prise de son, Alain Joubert. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission, la télécharger sur notre site franceculture.fr à la page d'Avis Critique, où vous trouverez aussi à vous abonner au podcast. Dans quelques instants, Jukebox.